la dernière conférence de la journée, donc à propos de la régie des œuvres pour cette exposition, donc vous avez compris, complexe et surtout avec des provenances de musées très lointains. Donc Pauline Marlot, qui est régisseur au musée Fabre à Montpellier, va nous raconter cette très belle aventure.
Donc bonjour. Effectivement, je vais vous expliquer une préparation de l'exposition, donc en l'occurrence Corps et Ombre, le Caravage et le Caravagisme européen. Alors, je vais vous parler procédure de marché public, montant, donc toute une partie financière qui quand même est importante vu que le transport et l'assurance, c'est 50% du marché global d'une exposition. Toute exposition d'ailleurs, pas simplement Caravage. Je ne parlerai pas de la partie montage, accrochage d'œuvres en elle-même, mais justement toute la partie avant, donc jusqu'à l'arrivée d'ailleurs du premier camion, toute la partie préparation à l'exposition sur les assurances, parce qu'il faut assurer les œuvres. Les marchés publics, assurances, et les marchés publics transport, avec les montants et les sommes qu'on doit pour faire revenir des œuvres, ainsi que certains coûts, certains cas de coûts, notamment des convoyeurs et des caisses. Donc, en premier point, l'assurance. Donc, on a lancé un appel d'offres restreint pour l'assurance. Donc, c'est une procédure de marché public, avec des délais qui sont longs. Donc, les montants à assurer, donc les valeurs d'assurance des œuvres, des valeurs globales, je ne vous donnerai pas de montants précis, mais tout le temps les montants globaux, et le montant des primes qui a à régler, soit par la communauté d'agglomération de Montpellier, vu qu'on est un musée d'agglomération, et le montant des primes extérieures, c'est-à-dire que les prêteurs, certains prêteurs, n'ont pas accepté notre propre assurance. Donc voilà, alors là c'est un petit peu du charabia, mais il faut y passer. Avant tout, donc pour les assurances, on est obligé de passer un appel d'offres restreint. On fait une mise en ligne d'un avis public, un avis de publicité, j'ai inversé les mots, excusez-moi, avis de publicité d'appel à concurrence après une délibération au conseil d'agglomération qui est passée au mois de décembre 2011. On a lancé le marché assurance au mois de janvier, avec ça se passe en deux temps. Premier temps, une réception des candidatures des assureurs. Donc le délai minimal est de 37 jours après la date de l'avis de publicité qui passe sur des plateformes acheteurs, au journal officiel, etc. Donc là, le choix des candidatures est fait donc par le service des affaires juridiques, et en collaboration avec moi-même pour voir si les candidatures sont valables ou non. Et ensuite, dans un délai de 40 jours après la réception des candidatures, on reçoit les offres des assureurs, on les analyse et on fait le choix du candidat et on notifie le marché. Donc il y a un prêt. On a encore un délai de 40 jours. Donc ça fait quand même 4 ou 5 mois de délai entre la passation du marché et la notification du marché. Donc si on s'y prend un petit peu trop en retard, le marché n'est pas notifié et on ne peut pas assurer les œuvres pour ce transport-là. Donc les montants à assurer par la communauté d'agglomération dans le cadre du marché qu'on a passé, donc c'est un montant de 438 485 060 euros, ce qui correspond à 62 œuvres sur 74. Le montant des primes extérieures à régler était de 398 422 900 euros pour un montant total de valeur d'assurance à assurer de 591 471 160 euros. Donc toujours pour 72 œuvres qui étaient présentes dans l'exposition. Enfin 74, mais il y avait des œuvres nous appartenant qu'on a assurées dans le cadre de l'exposition, mais pas du tout clou à clou. Donc le montant des primes, donc sur 74 œuvres, le montant payé par la communauté d'agglomération est un montant de 150 000 euros 150 867 euros. Et les primes extérieures, donc 9 primes pour 12 œuvres, d'un montant de 169 957,84. Les taux des assureurs sont toujours plus importants. Plus la somme à assurer est basse, plus les montants sont hauts, vu que les risques sont pas les mêmes. Donc voilà, donc un montant total du poste assurance à régler par la communauté d'agglomération de Montpellier de 320 824,85. Donc les 9 primes que nous avons dû régler, il y avait 2 primes américaines, donc le Metropolitan et Cleveland, et l'ensemble des autres primes, c'était des primes italiennes notamment. Tout le reste, c'était dans le cadre de la du marché public qu'on avait lancé par la communauté d'agglomération de Montpellier. Dans le cadre de cette de ce marché public, nous avons également demandé des clauses particulières d'assurance, vu que beaucoup de prêteurs nous demandaient les risques de guerre, par exemple, les tremblements de terre. Donc on a pris tous les risques en fait qui pouvaient exister pour se couvrir, pour ne pas avoir de problème avec, avec les prêteurs, puisque effectivement les Italiens sont très exigeants et les Américains également. Malgré tout, nous n'avons pas les mêmes droits. Le droit américain et le droit français n'est pas le même, mais on a quand même inclus beaucoup de clauses pour pouvoir permettre aux œuvres de venir. Sinon, ils peuvent bloquer également un prêt si l'assurance ne leur convient pas. Voilà, pour la partie assurance. Une fois que c'est fait, nous transportons. Pareil, nous faisons une procédure d'un marché public ouvert cette fois-ci. Pour le transport aller et retour et l'installation. Ensuite, donc, il y a un montant et des frais inévitables dans le cadre de ces transports, qui sont les frais de caisse pour faire venir les œuvres et la prise en charge des convoyeurs, donc ceux qui accompagnent leurs œuvres. Et après, la pratique, c'est quelques chiffres. Voilà, donc la procédure d'un marché public ouvert pour le transport, hors transfert à Los Angeles, parce qu'effectivement, quelques œuvres allaient à Los Angeles. Et l'installation. Donc, le transfert Los Angeles n'a pas été pris en charge par le musée Fabre, mais par le LACMA. Donc, nous l'avons sorti du marché. Mais il y avait eu tous les retours prêteurs des œuvres qui n'allaient pas à Los Angeles. Donc, toujours la même procédure, une mise en ligne de la publicité de l'appel d'offres à concurrence, après une délibération au conseil d'agglomération, donc, qui a été passée en décembre 2011. Une réception des offres. Donc la mise en ligne a été faite le 13 février, une réception des offres avec un délai normalement maximal de 52 jours après la date de l'avis, qui peut être accourci à 40 jours, 40 jours étant le délai minimal légal. Donc nous avons ouvert les offres le 26 mars 2012. J'ai fait l'analyse des offres, on a choisi le candidat. Entre l'analyse et le choix du candidat, il y a un délai de 2 semaines qui est vérifier toutes les offres pour sélectionner le bon candidat, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément le moins cher qui va être sélectionné, mais celui qui propose les meilleures solutions selon les informations qu'on leur a données. Puis une notification de marché d'un délai de 1 mois environ. Donc le marché a été notifié au mois de début juin, en sachant que l'exposition commençait le 24 juin à Montpellier, donc pour lancer les procédures le 20 décembre. Donc c'est quand même assez long sur ces procédures-là. Donc à l'époque, le montant estimatif que j'avais fait du marché transport aller-retour était de 770 000 euros. C'est une estimation globale sur un aller et un retour, en sachant qu'effectivement il y avait tous les prêts en attente, c'est-à-dire que je préférais mettre même les prêts qui risquaient de ne pas venir, parce que si jamais elles sont acceptées, si on se trompe d'estimation, le marché peut être infructueux et de fait, les œuvres risquent de ne pas du tout venir, hein, de fait. Donc le montant de l'offre de la société qui a été sélectionnée suite au rendu des marchés est de 526 197 euros aller-retour. Et le coût de la facture à la fin de l'exposition, donc une fois que tout était parti, était de 482 061,24 €. Il y a à peu près 40 000 euros de différence entre le montant de l'offre et le coût de la facture. Mais comme on était en association avec Toulouse, on a pu réduire certains coûts. D'autres coûts ont été réduits sur la non-venue de convoyeurs lors de la désinstallation à Montpellier pour le transfert à Los Angeles. Et quelques musées français, des convoyeurs français, des musées français ne sont pas venus tout simplement parce que soit ils nous connaissaient, soit parce qu'on a négocié, on a regroupé les convoyeurs. Donc les inévitables frais de caisse et prise en charge des convoyeurs. Donc sur 72 œuvres, on avait donc deux œuvres nous appartenant dans les salles d'exposition temporaire. Donc on avait en tout 72 œuvres à transporter, nombre de caisses 67 caisses, 67 fabrications de caisses, ce qui correspond à 18% du montant du marché transport. Nombre de convoyeurs, donc 29 convoyeurs à l'aller lors du déballage et 24 au remballage, ce qui correspond à 27% du montant du marché, on peut dire 30%. Alors, j'ai fait des coûts moyens pour savoir ce qui coûtait quand même cher. Un convoyeur américain coûte... Alors, j'avais mis prix moyen d'un convoyeur, mais j'ai changé en coût. C'était mieux. C'est 12 000 euros à peu près, l'aller-retour. Donc, 6 000 euros l'aller, 6 000 euros le retour. Ça englobe donc la prise en charge des billets d'avion, l'hôtel, les per diem, les remboursements de taxi. Donc, voilà. Pour les États-Unis, c'est 12 000 euros, puisque les billets... Donc, quand le convoyeur voyage avec l'œuvre, il est en business class, puisqu'il participe à la palettisation, à la dépalettisation à l'arrivée à l'aéroport. Normalement, il est à bord du camion. Donc, voilà. Le coût moyen d'un convoyeur européen, c'est 3 000 euros. Forcément, c'est moins cher parce qu'il n'y a pas de billet d'avion. Et le coût moyen, enfin, il y a un billet d'avion moindre. Le coût moyen d'un convoyeur français, c'est 2 600 euros l'aller-retour. Donc, des coûts réduits, effectivement, pour les caisses. Les frais ont été partageables avec les œuvres communes avec Los Angeles sont en coûts partageables. Donc, Los Angeles nous ont remboursé une partie du coût des caisses sur les œuvres communes. Et ensuite, donc, quelques convoyeurs et camions en commun avec Toulouse, notamment les camions qui livraient les œuvres à Montpellier de Los Angeles, Cleveland... et San Francisco, vu que Toulouse avait des prêts de ces trois structures-là. Et pareil pour le retour, parce qu'il fallait, et Dartford également, il fallait aussi que ça parte à Los Angeles. Donc c'est des coûts, somme toute, 44 000 euros. Ça englobe pas seulement ces frais partageables, mais une bonne partie, puisqu'on déduit les billets d'avion, le coût du camion... puisque outre le nombre des, enfin le coût des caisses et les coûts des convoyeurs, les camions coûtent extrêmement cher et le fret aérien coûte énormément cher vu le poids des caisses. On est à peu près à 800 euros les 100 kilos, donc en sachant que des caisses contre caisses peuvent facilement, selon les dimensions des œuvres, peser 500 kilos. Voilà, 500 fois 8. Bon. Donc voilà. Et voilà. Donc nombre de. Après c'est la pratique de. Après avoir vu les finances, c'est la pratique de l'arrivée des œuvres et toujours des chiffres. Donc le nombre de camions, 18 camions à l'aller, 12 au retour, dont 7 camions faisaient partie du transfert à Los Angeles, dont je n'ai pas participé aux frais. Les 18 camions à l'aller étaient répartis sur 4 jours. Et les 12 camions au retour étaient répartis sur 5 jours. Nombre de jours de montage, 5 jours et demi à Montpellier. Le nombre de jours de démontage, 6 jours. On a été assisté, du moins moi et les conservateurs ont été assistés d'une équipe de 4 installateurs de la société de transport. Et moi-même, j'ai été assistée de Marine Posier, qui m'a aidée dans la réception des camions, parce que monter une exposition en réceptionnant 5 camions par jour et s'occuper de 10 convoyeurs, ce n'est pas possible toute seule. Et de Marina Bousvarou, donc, qui est responsable de l'atelier des arts graphiques au musée Fabre, qui m'a aidée à faire les constats Et bien sûr, les commissaires de l'exposition ont été très présents sur le montage, Olivier Zeder et Michel Hilaire, pour les emplacements des œuvres, mais pas seulement, pour certains constats, mais pour leur bonne humeur. Voilà. Je vous montre juste une arrivée à Montpellier, une des 18 arrivées camions au musée Fabre, une semi-remorque avec les prêts justement de Los Angeles, Atlanta, j'ai fait une faute, avec des œuvres communes pour Toulouse, voiture suiveuse et 3 convoyeurs à bord. Ah non, ça ne marche pas. Alors là, on a le son, mais pas l'image. C'est dommage parce que Montpellier étant dans, le musée Fabre étant dans le centre-ville de Montpellier, les arrivées camions peuvent être parfois épiques, vu que voilà. Ouais. Bon ben là c'est la fin. Bon tant pis. Oh,
non. Vous l'avez aussi, vous l'aviez sur.
Oui, je l'ai ailleurs.
Ouais, mais là c'est plus facile. Ouais. C'est ça.
Oui, c'est ça. Bon, c'est juste une arrivée camion dans une petite rue de Montpellier, accessible à la circulation et aux piétons. Ah.
Voilà.
Alors, je vais la mettre c'est en grand, parfait, c'est sympa. Oui. Donc voilà, ça c'est un gros semi-remorque. Alors, c'est vrai que les régisseurs adorent les camions. On a des 35 mètres cubes, des 50 mètres cubes, des semi-remorques. On est spécialiste en chauffeur routier, autoroute. Et... Donc là, ces semi-remorques, c'est les plus gros camions. C'est une société de semi-remorques. Donc ça, c'est le vol cargo. Ils arrivaient de Los Angeles. Donc ils ont fait du Luxembourg. Ils ont fait Luxembourg-Montpellier en direct à 90 km/h. Donc les convoyeurs étaient frais et pimpants à l'arrivée du camion. Monsieur Marandel était ravi. Mais c'est le jeu aussi des expositions. Alors à partir de la diapositive actuelle. Alors, une caisse, un exemple de caisse isotherme, donc des offices Florence, avec coût de la caisse 1 300 €, pas très cher. 1 300 €, oui, ça va. Donc, une caisse isotherme normale pour un Caravage. Rainier, Atlanta, caisse plus caisse isotherme. Plus caisse contre caisse, excusez-moi, j'ai oublié la fin. Isotherme, 5 430 €. Beaucoup plus grande, beaucoup plus chère, mais les caisses américaines coûtent excessivement cher puisqu'il n'y a qu'un prestataire qui construit des caisses aux États-Unis et que, de fait, il n'y a aucune concurrence. J'ai quand même mis quelques photos du montage, du début. Donc là, on a l'œuvre de Libourne, le Manfredi. Je m'étais aidée lors de la préparation au montage de l'exposition de Fantôme, comme vous pouvez voir à côté de l'œuvre. J'ai fait faire des bâches plastifiées à taille réelle sans cadre de l'ensemble des œuvres. Ça coûte pas grand-chose. J'ai fait fabriquer 65 bâches sur 72. Puisque toutes les œuvres ne sont pas arrivées en même temps, vu le montant des valeurs engagées et les 18 camions, ça, et les temps d'acclimatation et les convoyeurs. Donc il fallait réellement avoir l'espace pour pouvoir accrocher les œuvres qu'on décaissait en direct avec les convoyeurs, puisque de toute façon on n'avait pas le choix. Donc pour la mise en place au niveau des commissaires et des conservateurs, il fallait réellement qu'on ait quelque chose et non pas une fiche A4 qui mette l'œuvre. Ça nous a aidés sur l'exposition. Monsieur Hilaire pourra vous en toucher un mot. Donc, on les a implantés dans les salles et c'était très bien. Donc, donc là, c'est Marina Bouzvarou, moi-même et un convoyeur qui faisant le constat. Ça, c'est le musée du Prado qui faisait un constat. Et voilà. Oui.
Oui, juste une petite précision. Donc, effectivement, on a réalisé ces fantômes plastifiés à échelle, mais sans cadre, pour quand même avoir un peu une idée de l'impact de l'œuvre sur les simèses, et aussi pour vérifier ce qu'on avait déjà testé, comme je vous l'ai dit, sur maquette et aussi sur modélisation avec notre muséographe, et avec bien sûr une marge d'erreur, puisque pas mal de ces dispositifs ont pu être changés ou corrigés au dernier moment. Mais c'est vrai que la totalité, enfin presque les plus grandes, toutes les séquences de l'exposition ont pu quand même être calées et vérifiées avec ce dispositif. C'est vrai que quand il y a autant d'œuvres, autant de chefs-d'œuvre, autant de perspectives, il faut quand même être sûr de son coup, même si, encore une fois, il peut y avoir des réajustements, et en particulier dans la salle suivante, on a pu faire quelques petites permutations, mais à chaque fois, c'était des corrections, des améliorations à l'œil de dernière minute. Tout à l'heure, on a évoqué l'éclairage, et quelqu'un m'a demandé effectivement d'en redire un mot. On va revenir sur la diapositive du Manfredi de Libourne et du Régnier. Voilà, ça c'est le Régnier de Sarasota qui est à côté. Alors, ce dispositif dispositif ERCO à LED, c'est vrai que le rôle du technicien du musée, du chef technique du musée, est d'implanter sur les rails tous les projecteurs pour que ensuite, en fonction bien sûr du plan d'accrochage, on puisse varier et arriver à une solution satisfaisante. Là, vous voyez, c'est pas du tout réglé, donc c'est un bon exemple parce que c'est vraiment tout à fait ce qu'il faut éviter, c'est-à-dire cet effet un peu de pastille lumineuse sur les murs. Vous voyez que le code couleur qu'on avait établi, là, est complètement, finalement, déformé, puisque la couleur n'est pas du tout homogène. Et en fait, ce qu'on veut arriver à faire, c'est d'abord d'avoir à l'œil une unité d'éclairage sur la simèse rouge. Donc, ça, c'est ce qu'avait fait, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le muséographe. Donc, vous voyez, ça, c'est la hauteur de la simèse. Donc, là, c'est une double peau. Que le muséographe, la société Salus, a pu faire avec ce trottoir de mise à distance devant. Et donc éviter ces effets de pastilles, mais au contraire caresser la totalité de la simèse colorée et éventuellement en fonction du variateur et en fonction aussi des axes de l'exposition, c'est-à-dire que pour aussi guider le spectateur, donc là il y a un problème aussi de circulation et aussi attirer le visiteur, non seulement sur certaines œuvres majeures, mais aussi lui donner des axes de lecture pour passer finalement d'une section à une autre, relever un petit peu l'intensité après sur chaque tableau, ou au contraire, l'abaisser. Donc ça, c'est ce que permet ce variateur. Mais en tout cas, ce qui est très très important, et c'est pour ça qu'on a vraiment tenu à avoir ce dispositif, c'est éclairer de façon homogène la simèse et non pas avoir uniquement des faisceaux lumineux sur chacune des œuvres. Et donc, c'est vrai que certaines des expositions, avec le dispositif qu'on avait avant, on avait essayé de le corriger, mais on avait des spots directionnels circulaires qui n'arrivaient jamais vraiment à supprimer cet effet quand même de circulaire, enfin de faisceau comme ça, lumineux, qui est vraiment très, très dommageable pour la lecture des œuvres. Donc, c'est vrai que ce dispositif permet, en tout cas maintenant, d'améliorer nos dispositifs d'accrochage et d'arriver quand même à une plus grande unité. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer aussi de faire cet été pour l'exposition Signac, avec un effet encore très, très homogène aussi, puisque là, c'est surtout des tableaux néo-impressionnistes, des paysages maritimes. Voilà, donc c'est ce que je voulais un peu juste préciser sur les dispositifs d'éclairage du musée. Alors tout à l'heure, Gennaro avait éventuellement évoqué la possibilité de quelques questions. Donc sur ce que vient de préciser Pauline Marlot ou sur les interventions précédentes, si vous avez des questions.
Bonjour, Olivia Heller du Musée historique de Strasbourg. Je voudrais savoir quel est le coût de ces fantômes imprimés que vous mettez sur le mur et quel est le rôle précis de votre équipe technique à part de monter les projecteurs. Merci.
Alors, le coût des bâches, comme je l'ai signalé, pour 60, une soixantaine de bâches, c'était 1 200 € TTC. Ensuite, le rôle de l'équipe technique, elle en a beaucoup. Sur les expositions, sur cette exposition-là, du moins, elle n'en a pas eu parce que beaucoup de musées m'ont demandé à ce que ce soit la société, et comme ça se fait d'ailleurs maintenant le plus souvent, me demande à ce que ce soit les sociétés de transport qui manipulent et qui accrochent les expositions. Ce qui est plutôt bien en termes de responsabilité également, vu les sommes qui sont engagées sur cette exposition ou sur d'autres expositions. Ensuite, ça permet également de mieux arriver à planifier avec une équipe finalement que l'on paye, enfin qui... Les rapports ne sont pas les mêmes. L'équipe technique fait beaucoup de choses. Ils participent aussi à l'arrivée de ces camions, à toute la muséographie. Ils aident énormément. Ils font la peinture. Enfin, la muséographie, ils travaillent sur la muséographie puisqu'ils font...
Si on sort le post-peinture, oui, de la muséographie...
Si les post-peintures...
L'anticiper, c'est-à-dire que lors du recrutement du muséographe, plutôt du marché travaux, on dira que soit il est en option, soit on le sort carrément si on pense que l'équipe technique du musée Fabre, qui comporte 4 personnes, un chef technique et 3 techniques, est en mesure de peindre les espaces. Mais vous savez, peindre les espaces, c'est quand même beaucoup, parce que sur une exposition de 1200 m² avec 6 codes couleurs, toutes ces 6 messes que vous voyez rouges, c'est quand même plusieurs. D'abord, il faut préparer... il faut préparer les murs, hein, donc souvent des masticages, des premières couches, et puis après plusieurs couches pour arriver à la couleur quand même finale. Donc c'est quand même un travail assez considérable. Alors, ils sont équipés pour le faire, ils l'ont fait à plusieurs reprises, mais en tout cas c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et en gros, on a je parle de la salle proprement dite des expositions temporaires, c'est-à-dire environ 900 m², on a un poste entre 20 et 25 000 euros de peinture.
Puis ensuite, effectivement, l'équipe technique, donc comme il y avait des œuvres du musée Fabre qui apparaissaient dans l'exposition de Caravage, il y a aussi les salles d'exposition permanentes qui ont évolué, qui ont dû être accrochées, décrochées. Et il y a d'autres activités dans le musée pendant les montages d'exposition qui font partie de la vie d'un musée. C'est vrai que la vie du musée et les autres conservateurs ne s'arrêtent pas pour autant de travailler. Dommage.
Non, mais c'est vrai que en marge de l'exposition, il y a eu, comme il y avait, on l'a dit tout à l'heure, sur le parcours proprement dit de l'exposition sur Corps et Ombre, on avait modifié un petit peu l'accrochage de la galerie des Griffons, c'est-à-dire la galerie qui reçoit les collections italiennes. Donc là, il y avait des réajustements à faire en termes d'accrochage. Et des œuvres du musée figuraient elles-mêmes dans l'exposition. Donc ça veut dire aussi qu'elles quittaient leur salle d'origine pour intégrer l'expo. Donc il fallait remodifier l'accrochage. Donc c'est vrai qu'autour de l'exposition, il y a pas mal de bouleversements dans les collections permanentes. Donc l'équipe du musée qui en charge toute l'année ces collections est mobilisée principalement sur le permanent, alors que le temporaire est on a affaire à une équipe qui, effectivement, comme le disait Pauline, c'est une équipe de prestataires rémunérés. Donc il y a aussi une responsabilité, un soin particulier et surtout un professionnalisme tout à fait remarquable, sachant que là, on a affaire quand même à des valeurs d'assurance, en effet, considérables. Et donc voilà, il faut prendre énormément de soins pour mettre en place une telle exposition. Et je dois dire que celle-ci, heureusement, donc, n'a pas eu le moindre incident. Enfin, en tout cas, tout s'est passé tout à fait bien. Voilà.
Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas le faire, hein, mais c'est effectivement les responsabilités et les demandes de beaucoup de prêteurs. Et pour nous, c'est aussi enlever la responsabilité à notre équipe de permanent. Puisque c'est quand même assez lourd, et ils peuvent avoir des pressions qui ne pourraient pas assumer non plus.
Oui, moi je voulais juste savoir si vous faites un appel d'offres pour les assurances pour chaque exposition ou si c'était exceptionnel.
Alors, c'est pas moi pour les assurances, c'est pas moi directement qui les lance, mais c'est la direction des affaires juridiques de la communauté d'agglomération, mais je les aide à le faire sur les expositions temporaires. Non, on ne le fait pas pour toutes les expositions. On a un contrat d'assurance sur 3 ans qui permet de faire des expositions, où on a dans ce contrat d'assurance les expositions temporaires, mais à hauteur de 200 millions d'euros. De valeur agréée. Dès qu'on dépasse 200 millions, il faut lancer un marché. Donc Caravage, forcément, vu les montants que je vous annonçais dépassés, cette année, par exemple, on va faire Signac et Diderot, deux expositions qui sont à moins de 200 millions chacune, mais comme pendant un mois et demi, elles sont en même temps, eh ben, on a quand même fait passer un marché pour Signac, vu qu'on était prêts dans les délais. Du coup, on n'en fera pas pour Diderot. Mais voilà, si on fait plus deux expositions, il ne faut pas que les expositions soient en même temps dans le musée. Donc, dès qu'on en fait deux, et même s'il y a un mois, même s'il y a 3 semaines, on dépasse de fait le montant des 200 millions. Donc, on préfère passer au moins un petit marché qui est pareil. C'est moins lourd. C'est toujours une procédure restreinte, mais c'est avec des sommes qui sont moins importantes. Donc, on est sur des marchés à procédure adaptée et non plus sur des marchés européens. Donc, c'est des procédures qui sont un petit peu moins lourdes et encore, les délais sont les mêmes en procédure restreinte. Donc, oui, ça dépend, en fait.
Dominique Vintin, je suis directrice du musée du Petit Palais à Avignon. C'est simplement une réflexion et une question que je me pose, que je voudrais partager avec vous tous. J'ai vu votre exposition, je l'ai beaucoup appréciée, notamment la qualité des textes aussi didactiques qui étaient offerts aux visiteurs. J'ai apprécié aussi le caractère très méthodique de la préparation. Mais par rapport à cette question qui nous réunit, qui est ce qu'exposer veut dire, je vois que l'on travaille tous un petit peu de la même façon, avec des moyens et des ambitions différentes, à savoir sur des maquettes d'où le public est absent. Et tout ce que nous essayons de dire d'une manière assez idéale dans ces salles qui sont vides, je me demande quelquefois ce que le public en voit quand il y a une telle affluence dans les expositions où les perspectives sont un petit peu... saccagé en quelque sorte par l'affluence et où tout ce que nous avons essayé de montrer, hein, de dire à travers la scénographie est un petit peu abîmé par le succès de l'exposition.
Ouais, je dirais que là, bon, vous soulevez un véritable problème, effectivement, qui est un peu à la base, effectivement, du thème de la journée qui nous réunit. C'est vrai que tous ces raffinements, ce travail, cette recherche un peu de perfection, ou en tout cas de lisibilité pour le plus grand nombre, parfois, bon, peut-être, quand les salles sont pleines, il y a une part qui peut échapper au public. Mais il faut quand même dire deux choses. D'abord, trois choses. Il y a le fait qu'il y a une jauge dans les expositions. Donc c'est vrai que quand vous dites que les salles sont pleines, c'est vrai qu'elles peuvent être effectivement assez pleines. Mais nous, en tout cas, pour Caravage, à un moment donné, on était tenu d'avoir environ 200. Alors parfois, ça monte entre 180, 200, 220. C'est autour de ça, mais réparti dans l'ensemble des 1200 m². Donc on demandait, les commissaires et l'équipe responsable de l'accueil demandaient à la personne qui était à l'entrée même de l'exposition de stopper tant que la personne qui était en fin d'exposition ne l'avait pas averti qu'il y avait 15 ou 20 personnes qui pouvaient à leur tour rentrer. Donc il y a quand même un contrôle, puisque c'est vrai que si on faisait rentrer d'un coup des milliers de gens dans l'exposition, je dois dire que d'abord ça serait invivable et en plus il y aurait réellement un problème de sécurité. Mais en temps normal, je dirais, il y a quand même des jours où il y a moins de monde. Il y a des heures aussi dans la journée. Par exemple, on avait des horaires aménagés jusqu'à 20 heures. Et on s'est rendu compte quand même qu'à partir de 18h, 18h30 jusqu'à la fermeture, enfin en gros en fin d'après-midi, il y avait quand même des plages de temps beaucoup plus souples pour visiter cette exposition. Et là, le public pouvait vraiment se rendre compte du travail d'accrochage. Et là, il s'en est rendu compte, puisqu'en fait, les retours quand même qu'on a eu, c'est qu'ils avaient vraiment pris conscience que l'expo était très, très élaborée et pensée en termes de parcours, en termes de perspective et aussi par rapport au découpage pour le grand public, c'est-à-dire vraiment rebondir de section en section avec le regard guidé, aussi bien d'un point de vue d'ailleurs intellectuel que d'un point de vue esthétique. Donc c'est ces deux composantes qui ont finalement fait tilt dans le public, éclairé ou moins éclairé. Et puis c'est vrai que même quand il y a beaucoup d'affluence dans une exposition, imaginez qu'on n'ait pas autant pensé l'exposition, je pense que ça serait absolument terrifiant si l'accrochage n'était pas extrêmement tendu, extrêmement rigoureux. Si vous voulez, là il y aurait une confusion des deux côtés, c'est-à-dire confusion dans la salle et confusion sur les murs, si vous voulez. Donc je pense que dans tous les cas, le commissaire ou les commissaires sont absolument gagnants quand ils ont aussi la possibilité de le faire. Là, on a parlé de délais particulièrement confortables pour cette exposition. Mais pour chaque exposition, c'est pour ça qu'il ne faut pas vouloir... Moi, je suis contre le fait de faire trop d'expositions, même si le Musée Fabre en a fait beaucoup. Mais en tout cas, je pense qu'il faut se donner le temps de bien les faire, ces expositions. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que de se dire qu'une petite, moyenne ou grande exposition, on bâcle tous les dispositifs de médiation qui sont autour et qui sont absolument nécessaires. D'ailleurs, ce qui a caractérisé le musée, qui, je le répète, a un service, l'un des rares musées, à avoir un service des expositions intégré avec une directrice des expositions et du personnel sous sa responsabilité, c'est en liaison avec les commissaires, vraiment mettre en place des dispositifs de médiation très en amont pour le grand public, avec ses audioguides en français, en anglais, tous les textes de Murau, les cartels développés, tout ça, c'est à partir, bien sûr, des textes produits par les historiens d'art et les commissaires, mais c'est quand même aussi reprendre tous ces textes, et c'est un métier, si vous voulez. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir aussi une façon d'adapter ces textes pour un grand public. C'est-à-dire que souvent, alors bien sûr que les commissaires et les conservateurs peuvent aussi le faire, mais je trouve que c'est bien d'avoir un autre regard et à partir de matériel finalement assez sophistiqué, assez complet, de pouvoir aussi en tirer quelque chose pour un très large public. Donc finalement, synthétiser, c'est un métier aussi, c'est un autre métier en fait. C'est pour ça qu'un service des expositions est absolument important avec des gens qui sont habitués à ça, qui ont un peu le sens de la synthèse, le sens de la médiation culturelle. Ce sont des métiers, en fait, et qui sont absolument nécessaires et qui sont à la base du succès de ces expositions, finalement. Parce que c'est vrai que cette exposition a, je dirais, un peu plus que les autres, sans doute, mais on avait déjà quand même testé ça avec de grandes expositions, puisque je rappelle que le musée a repris à plusieurs reprises, en réadaptant plusieurs expositions du Grand Palais. C'est-à-dire que l'exposition Courbet en 2008 avait d'abord été présentée au Grand Palais à Paris, ensuite à New York, et puis chez nous, il y a eu l'exposition Nold qui a été montée entre le Grand Palais et Montpellier, l'exposition Odilon Redon qui a été entièrement reformatée à Montpellier. La muséographie, d'ailleurs, ce n'était pas le même muséographe. Donc à chaque fois, on a fait un énorme effort aussi pour adapter ces expositions avec peut-être un sens pédagogique extrêmement développé. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire à Montpellier avec peut-être encore plus de cet objectif dans le Caravagisme qui, encore une fois, est une exposition quand même ambitieuse en période estivale, ce qui est quand même particulier. C'est vrai que parfois des expos plus séduisantes, sans que ce soit d'ailleurs péjoratif, mais par exemple cet été on fait Signac les couleurs de l'eau, même si c'est un artiste très complexe, puisque c'est aussi un théoricien, donc c'est pas du tout pour dire que Signac est moins pointu que le Caravagisme, mais en tout cas c'est peut-être plus séduisant pour un très large public. Voilà.
Moi j'ai encore une petite question. Juste une mini question. On vous a vu en train de faire des constats d'État, mais est-il, possible, si ce n'est raisonnable, de faire 72 constats d'État tout seul en 5 jours et demi, sans l'aide d'un restaurateur? Et question 2, est-ce que parfois vous faites appel à un restaurateur pour faire le constat d'État des peintures qui arrivent comme ça et que vous accrochez tout aussitôt, d'après ce que j'ai compris?
Alors là, j'ai été assistée. Hein. Il y avait Marina Bouzvarou, comme je l'ai dit, qui était également présente. Et les conservateurs également font des constats d'État. À Montpellier, c'est vrai qu'on n'a pas du tout l'habitude, vu qu'on sait les faire. On ne va pas payer quelqu'un pour le faire. Enfin,
Non, mais c'est vrai que Marina Bouzvarou, comme l'a dit Pauline, est responsable de l'atelier des arts graphiques et restauratrice elle-même. Donc, si vous voulez, ça aide quand même beaucoup d'avoir une restauratrice dans les murs. Parce qu'en fait, c'est quand même un professionnel aussi. Et bon, bien sûr qu'un conservateur, ça fait partie de ses missions. D'ailleurs, quand il fait des convoiements à l'étranger, il doit aussi faire les constats, puisqu'il y a le constat de départ et le constat d'arrivée. Mais là, c'est vrai que ça aide quand même beaucoup. Hein. Il y a un professionnalisme. Et puis, c'est vrai qu'il faut aller relativement vite, dans la mesure où le convoyeur, quand il est là, demande à ce que l'ouverture de la caisse soit faite, le constat et l'accrochage immédiat. C'est-à-dire que pendant longtemps, il y avait, bon, sauf quand on connaît et qu'on a une relation de confiance avec le convoyeur, ce qui a été le cas par exemple de mon collègue Jean-Patrice Marandel du LACMA, qui, nous connaissant Olivier Zeder et moi, nous a fait confiance. Je veux dire que c'est assez exceptionnel d'ailleurs, parce qu'il n'y avait quand même pas rien. Il y avait la Madeleine de la Tour, par exemple. Hein. Donc, il n'était pas présent au moment de l'accrochage de ces tableaux. Donc, on a pu bouger et réadapter certaines pièces dans l'accrochage, parce que c'est vrai que cet accrochage qui paraît comme ça très figé, avec les fantômes, avec la modélisation, avec la maquette, comme je vous l'ai dit, il y a eu quelques réajustements et quelques surprises. Et donc, ça nous aide quand même d'avoir quelques conservateurs qui peuvent nous faire confiance pour quand même bouger certaines œuvres sans la présence du conservateur. Mais là, vous avez aussi des convoyeurs qui viennent, anglais ou même les gens des offices, qui exigent l'accrochage. Donc, si vous voulez, là, si vous n'êtes pas sûr de votre coup, une fois que le tableau est au mur, même si la salle ne marche pas, vous avez votre salle fichue en l'air pendant toute la durée de l'exposition. Donc ça, il faut en être conscient. C'est pour ça qu'il y a tout ce travail d'anticipation, si vous voulez, parce que c'est absolument terrible. Vous pouvez, par exemple, tout d'un coup, mal calculer votre accrochage au niveau de la hauteur, au niveau de l'espacement par rapport à l'œuvre à côté, mais après, c'est fini. Ou alors, il faut que vous payiez le convoyeur pour revenir dans l'exposition, en le repayant un billet d'avion. Parce que vous ne pourrez pas bouger l'œuvre. Donc, ça demande quand même une certaine précision.
Et après, effectivement, les constats. Donc, on a quand même un planning bien défini et bien mis en place au départ. Donc, c'est vrai qu'on ne reçoit pas tous les convoyeurs en même temps. Lorsqu'on est assisté, c'est vrai que ça permet de recevoir deux convoyeurs. Donc, on peut faire deux constats. Et en même temps recevoir un camion, parce qu'effectivement il y avait une troisième personne qui m'a aidée. C'est vrai que je me suis souvenue lors de l'exposition Caravage que j'avais fait une exposition courbée où j'avais été toute seule à faire les constats, à faire les arrivées, les rendez-vous convoyeurs et les constats. Mais j'étais plus jeune, ou alors j'étais beaucoup usée depuis, parce que sur courbée on avait 150 œuvres. Là, ce n'était que 74, mais on a été, heureusement qu'on était trois finalement, plus les conservateurs, hein, donc cinq, à faire ça, parce que je pense que toute seule, effectivement, j'aurais pas pu le... Mais le planning avait été quand même bien ficelé. Après, il y a toujours des ratages, effectivement, des convoyeurs qui se trompent d'horaire de rendez-vous ou, effectivement, des retards sur l'accrochage parce qu'un convoyeur a été plus long qu'un autre. Maintenant, il y a effectivement des convoyeurs qui viennent, mais ils ne font pas le constat. Ils n'ont pas fait le constat de départ, ils ne font pas le constat d'arrivée. Et des fois, même, ils n'ont pas de constat, donc c'est à nous de tout faire. Et c'est ça qui prend du temps finalement. C'est plus, pas spécialement le constat en lui-même, mais la gestion des convoyeurs, la gestion des constats. Est-ce qu'on va avoir un bon constat à l'arrivée, puisqu'on est censé en avoir un? Est-ce qu'on va en avoir un? Comment il est? Est-ce que... voilà. Après, il y a eu effectivement le régisseur de Hartford, donc Marie Buzik, qui est venu... donc, ils sont venus à deux, mais parce qu'il y avait deux expéditions. Elle a fait les constats, mais... enfin, voilà. C'était, on le faisait si on le voulait, mais bon, après, c'est sur des œuvres comme ça, on veut toujours bien les faire. Monsieur Marandel a été très bien parce que lui, effectivement, il nous faisait totalement confiance. C'est-à-dire que sur les quatre œuvres qu'ils nous ont prêtées, moi et Marina, séparément, on a fait chacun les constats, on s'est partagé les œuvres. On se disputait un petit peu les œuvres, qui c'est qui faisait le constat d'un Caravage, d'un Georges de la Tour. Enfin, on s'est pas disputé, hein, mais c'était un jeu. Et du coup, effectivement, on a fait le constat. Et Monsieur Marandel les a contresignés en toute confiance, parce que c'est aussi le but, c'est pas de dire qu'il s'est rien passé alors qu'il s'est peut-être passé quelque chose. On n'est pas du tout dans cette politique-là, donc voilà.
Question, je crois. Oui, bonsoir, Johan Rimaud, je suis élève conservateur. J'ai une question qui porte sur le propos que peut tenir une exposition telle que celle que vous avez organisée. Vous avez rappelé dans l'introduction historiographique le succès croissant des expositions sur Caravage et sur le caravagisme. Je me demandais si vous aviez eu l'intention de questionner cette notion de caravagisme à l'occasion de l'exposition, puisque c'est une notion à laquelle tous les chercheurs ne souscrivent plus forcément aujourd'hui. Je pense notamment au petit essai qui a été publié au même moment par Olivier Bonfay. Mais pourquoi pas de au moins recontextualiser en montrant des peintres avant Caravage, qu'il y a des éléments qui ont pu exister avant Caravage. Enfin, est-ce que ça a été dans vos intentions de départ ou pas du tout?
Oui, tout à fait. Au tout début, avec Axel Emery, en fait, l'exposition n'avait pas exactement le même découpage. On avait rassemblé une documentation pour placer le sujet avant Caravage, c'est-à-dire pour avoir une première section, par exemple, d'artistes qui auraient pu, comme ça avait été le cas d'ailleurs à Naples et à New York, c'est-à-dire d'avoir vraiment un peu la filiation lombarde de Caravage, et voir aussi comment des artistes comme dans l'école des Carrache, hein, aussi bien Ludovico que Hannibal Carrache, ont pu aussi très tôt avoir un sentiment naturaliste très fort qui aurait pu déjà placer le sujet, et surtout par contraste aussi, non seulement ces signes avant-coureurs, mais aussi essayer de comprendre comment, par exemple, dans la dernière décennie du XVIe siècle, il y a des artistes qui sont finalement très, très éloignés de Caravage dans leurs préoccupations, bien que vraiment contemporains. C'est-à-dire pour mieux comprendre finalement l'apport de cette révolution caravagesse. Parce que là, dans l'exposition, on commence d'emblée avec la révolution caravagesque, l'impact de Caravage, donc le sujet est placé. Mais le problème, si vous voulez, c'est que comme on avait après l'intention de faire une exposition sur le caravagisme européen, en deux volets, avec quand même 74 œuvres à Montpellier et autant à Toulouse, c'était déjà un propos très vaste, avec les Flandres, avec la Hollande, et mettre... ces sections un petit peu de mise en pour placer le sujet nous auraient embarqué dans une exposition encore plus ambitieuse. Alors là, on manquait d'espace, on manquait de temps et on manquait de moyens. Mais vous avez raison de souligner ça, parce que j'ai toutes les esquisses du projet qui sont finalement assez différentes du propos final qui a été celui de 2012.
Oui. Pardon, pour répondre, il faut dire aussi que l'exposition de Naples et New York en 1985, justement, ils avaient commencé avec Peter Zahn, Savoldo, Moretto, très longuin, mais en même temps, c'était que caravagisme italien. Donc, effectivement, vu l'ampleur des présences à Montpellier, je pense que ça aurait été impossible. Et puis aussi, il faut penser pour le public, une chose, c'est un essai chez Hazan, et une autre chose est une exposition. Il ne faut jamais confondre essai et exposition. Ce que vous avez dans votre tête, ce n'est pas souvent, vous ne pouvez pas la transformer en exposition parce que le public, par exemple, pour le cas de Naples, et ça c'était le début du compte-rendu de Previtali, le public était désemparé parce qu'il allait justement au musée pour voir Caravaggio. Et vous savez, Moretto, tout ça, c'est très intellectuel, c'est très bien, c'est formidable, c'est magnifique, mais le public, moi je trouve que du point de vue didactique, et d'ailleurs, je termine sur ça et je vous dis au revoir à demain matin. Si nous avons choisi l'exemple avec Philippe Dagen, Anouk et nous-mêmes de l'Institut national du patrimoine, si nous avons choisi l'exposition Caravage, ce n'est pas uniquement parce qu'on est amis, on a beaucoup d'estime pour M. Hilaire, qui tous les ans dirige, accueille un élève conservateur stagiaire, mais parce que l'exposition, on a été ébloui par la clarté. J'ai rarement, je crois que j'ai vu, je ne sais pas combien d'expositions Caravage, tout ce que j'ai mentionné, j'en ai vu au moins 98%. Donc basta Caravage, il ne faut plus faire d'expositions Caravage. Il y a vraiment l'overdose, surtout en Italie, entre la Borghese et le Quirinal. Tous les ans, il y a un truc Caravage, ce n'est plus possible. La pauvre Galleria Borghese, elle est démontée tous les ans pour faire des expositions bêtes sur des sujets qui ne sont pas des sujets. Mais c'est un peu, justement, on a choisi cette exposition et on vous a proposé cet après-midi Caravage justement parce qu'il y avait une clarté de propos, parce que l'exposition s'adresse au public. Ce n'est pas un cri-cri intellectuel entre trois spécialistes. Eux, ils n'ont pas besoin d'exposition. Ils ont déjà vu les Caravages. L'exposition est pour le grand public. C'est pour le public de Paris qui descend Montpellier. C'est pour les Montpellierens, mais c'est aussi le public de Palavas-les-Flots. Justement, ceux qui vont en tongs et en Bermuda, très bien. Le musée appartient à eux aussi. Donc, nous avons choisi l'exposition parce que, justement, la clarté est... Un autre élément que j'avais beaucoup, beaucoup apprécié, je ne dis pas parce que Michel est là, la qualité de la muséographie. C'était clair, clean, très bien éclairé. Souvent dans les expos, vous perdez des heures pour regarder les œuvres. Là, non. L'éclairage était parfait. C'est une des questions, la première chose que j'ai posée à Michel comme question, qu'est-ce que tu as fait pour l'éclairage? Parce qu'effectivement, j'avais vu qu'il y avait eu un changement. Et ça, c'est très important. Donc, le succès de l'exposition n'est pas lié uniquement au sujet, bien sûr, de Caravage, mais aussi parce que c'était une exposition qui marchait à tout point de vue. Claire, pas d'œuvre douteuse. Ça aussi, c'est très intellectuellement, c'est extrêmement important de concevoir des expositions sur des œuvres qui n'ont pas des infiltrations et des liens. Surtout, vous êtes conservateur, vous aurez des collections publiques. Donc, il faut vraiment très attention, surtout que Caravage, c'est très facile. Il y en a tellement qui circulent avec des pseudos de Caravage. Donc, le propos de cette expo, il n'y avait pas d'œuvre douteuse. Les rares, avec beaucoup d'honnêteté, ils ont mis anonyme. Ils n'ont pas essayé de forcer les attributions. Je pense qu'aucune attribution, hormis vraiment les Chiomo de Gênes, mais ça, c'est un débat public. Aucune des œuvres des Manfredi, des Cagnacci, etc., tout ce que vous voulez. Et donc ça, je pense, dans une expo, ça fait aussi son succès. Donc elle a eu un succès unanime parce que ce n'est pas une exposition qui posait, bien sûr, des problèmes historiographiques, mais au moins, le parti pris était clair, le choix des œuvres était clair, et surtout aussi pour la beauté des yeux, parce que c'était une exposition vraiment magnifique. À demain matin, à 9h30. Sinon, on s'en sort plus.